Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h09, nous voilà de retour, le week-end des experts et après le jardin, après la maison. Et avant de retrouver tout à l'heure Raphaël Grabi pour la vie numérique, et on va parler consoles de jeux, toutes ces nouvelles consoles qui arrivent pour cette fin d'année, la PlayStation 5, les nouvelles Xbox. Quels sont les jeux aussi qui valent le détour, qu'on va peut-être offrir ou s'offrir pour Noël? On verra ça tout à l'heure, donc entre 9 et 10. Mais avant tout cela, c'est la forme et la santé, c'est avec le docteur Christian Recchia. Bonjour docteur.
Comment allez-vous mesdames et messieurs? Pour moi c'est la très grande forme, je sais que pour vous également, le week-end va être très beau.
Bah, espérons-le, un peu frais.
Oui, mais c'est normal.
Mais nous allons...
C'est bientôt Noël.
Alors justement, comme c'est Noël et qu'il fait un peu frais, on va manger. Et on va manger un peu costaud. Raclette.
Je sais que vous
charcuterie.
Adorez. Vous adorez la charcuterie, vous le Corse. Vous savez, mesdames et messieurs, François va très souvent à Ajaccio. Il va rencontrer les aïeux de...
Pas très souvent. Pas assez souvent. Bon,
vous y allez une fois par semaine, personne ne le sait, mais une fois par semaine, vous y allez.
J'adorerais. Croyez-moi, franchement, j'adorerais y aller une fois par semaine. Bref, tout à l'heure, on va parler de charcuterie.
Oui. Et c'est un très grand plaisir, parce que c'est un produit que j'adore.
Et c'est un sujet quand même assez complexe, parce que on dit tout et n'importe quoi concernant la charcuterie. Ancestral, la charcuterie existe depuis la nuit des temps. Il y a la polémique de la viande transformée, d'accord?
Il y a des nitrites. Les députés racontent n'importe quoi sur ce sujet et on va remettre les choses au carré.
Voilà, il y a les nitrites aussi. Il y a aussi le gras. On dit que la charcuterie c'est gras, etc. On fera le point là-dessus et vous verrez que le tableau n'est pas forcément si sombre que ça.
Et nous allons avoir un très grand scientifique qui a été président du comité scientifique de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments, un très grand personnage, une pointure. Et là, il va nous expliquer la synthèse de tous ses travaux et on voit bien ce que les politiques et même Axel Kahn se trompent, mesdames et messieurs.
On verra ça tout à l'heure. On va aussi parler confinement et adolescents. Alors, on se dirige vers un déconfinement, touchons du bois.
Oui, espérons on va toucher tous les bois possibles.
Voilà, que ça aille de mieux en mieux. On va évoquer tout ça dans quelques instants. Mais pour débuter, place à vos questions, bien sûr. Vos questions au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. Et on attaque avec Muriel qui est là, Christian. Bonjour Muriel.
Bonjour Muriel. Oh.
Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour François.
Bonjour Muriel. Muriel de l'Eure.
Exactement.
Parfait. On vous écoute Muriel et bienvenue.
Bienvenue.
Bien, merci. Alors ma question est simple. Que pensez-vous de la luminothérapie?
Eh bien c'est très simple. La question est excellente. Merci. La luminothérapie est absolument nécessaire dans tous les pays qui sont en baisse d'ensoleillement à partir du mois de septembre-octobre. Ce qui signifie que la lumière est en mesure de vous stimuler sur le plan neurologique. Et je dirais que même les personnes qui ont la chance d'aller à Ajaccio toutes les semaines, ou de vivre à Ajaccio ou à Bastia, de vivre à Nice, à Cannes, à Saint-Jean-de-Luz, vous savez qu'à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz, et dans la région du Pays Basque, on peut quasiment manger dehors à Noël. Mais la luminance, la lumière s'est affaiblie. Donc, et puis, il faut être clair, nous ne travaillons pas dehors. Même quand on est à Nice, à Ajaccio ou à Saint-Jean-de-Luz, on est quand même dans un appartement ou dans une maison. Donc il y a une luminosité qui a diminué, ce qui veut dire aujourd'hui, madame, ça va très loin, c'est que nous constatons que les enfants sont aujourd'hui myopes. Rappelez-vous, on a reçu Oya, qui est un grand laboratoire qui a travaillé sur le sujet. Les enfants sont myopes aujourd'hui parce qu'ils sont confinés dans l'absence de lumière. L'humain n'est plus suffisamment dehors, au regard lointain, à l'ensoleillement.
Christian.
Et donc, la luminothérapie en ce moment est absolument nécessaire.
Quels sont les symptômes du manque de lumière? Quelles conséquences ça a sur notre organisme?
Trouble du sommeil, trouble de l'humeur, trouble de la capacité à être dynamique et dynamisant. Ça veut dire clairement que la luminothérapie est un élément qui vous fait sécréter, excréter des hormones qui vous donnent une justice fonctionnelle au niveau du parasympathique et orthosympathique. Et donc aujourd'hui, avoir plus de lumière dans son bureau, plus de lumière dans l'endroit où on vit, surtout qu'en ce moment, tout le monde vit confiné chez soi. Souvent, la journée commence tôt et puis on travaille beaucoup. Les gens ne sortent pas. Et donc la luminothérapie, madame, c'est une excellente question. C'est un sujet majeur. Bravo pour la question. Je dis oui, la luminothérapie est une thérapeutique nécessaire. Alors, donc les magasins ouvrent aujourd'hui. Donc foncez sur tous les appareils de luminothérapie. Je ne m'attendais pas à la question, mais bravo.
Oui, Muriel.
Mais j'ai juste une question. Aussi, est-ce qu'il y a des contre-indications ?
Non, madame, parce que les outils et les appareils de luminothérapie aujourd'hui sont extrêmement bien travaillés. Et je dois dire que je vais faire un parallèle, si vous le permettez, François. Accordez-moi 2 heures de plus. Eh bien, l'idée, c'est que cette année, j'ai vraiment insisté sur la vitamine D. Eh bien, la vitamine D, madame, quel que soit l'âge, à partir de 5 ans en ce moment, c'est 10 gouttes par jour, c'est absolument nécessaire. Et pour les personnes de plus de 50 ans, c'est 10 gouttes par jour ou une ampoule tous les 3 mois. Eh bien, la luminothérapie, c'est pareil. Autant la vitamine D est un restructurant du système osseux et un restructurant du système
immunitaire. Les deux sont intimement liés.
Du système immunitaire. Et donc, en ce moment, on en a vraiment besoin du système immunitaire. Donc, vitamine D. Et on peut même dire que la vitamine D est un élément qui permet d'éloigner les risques de complications Covid. Donc vous voyez, ça va très loin. Et je l'avais dit en mars dernier.
C'est vrai ça, parce que c'est vrai qu'il y a des études qui circulent.
Et donc ça, c'est un élément important. Je l'avais dit en mars dernier, avant les conclusions des études, mais c'est logique, c'est la fonction physiologique de la vitamine D. Et la lumière fait le même travail, madame. La lumière fait le même travail parce que sur le plan endocrinien, il n'y a pas seulement un effet neuronal, un effet optique sur le lobe occipital et sur l'humeur, il y a un effet sur l'immunité, évidemment.
Très bien, ben voilà Muriel.
Bravo, merci. Bravo. Revenez quand vous voulez.
Alors moi, pour compléter la question de Muriel, rien ne vaut la lumière du soleil, on est d'accord ?
Bien sûr, la lumière d'Ajaccio, la lumière parisienne.
Non mais Christian, on arrête avec Ajaccio,
non,
ce que je veux dire par là, c'est qu'à Paris...
Je prends l'exemple, très très précis. Quand on est à Ajaccio, il n'y a pas de nuages, le soleil, même en hiver, est bas, mais il y a une lumière. Et le problème de Paris, c'est quand il y a une lumière à midi, c'est voilé. Donc il y a une intensité qui est divisée par 10, même si on se
rend pas compte. Mais c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien, mais c'est de toute façon toujours insuffisant. Et j'insiste sur Ajaccio, parce que quand on arrive à Nice, à Cannes, à Toulon, ou dans ces eaux-là, on sort du train, on sort de la gare, on sort de l'avion, et ben qu'est-ce qu'on a ?
On a de la lumière.
Et bien ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de dépression liée à l'absence de lumière dans le sud que dans le nord.
Malheureusement, on ne peut pas tous aller dans le sud de la France.
Il y a une corrélation entre l'absence de lumière et les maladies vasculaires également, notamment pour les gens du nord. Donc, vous voyez, cette luminothérapie a du sens.
Tiens, on a Thomas qui nous dit « Nous avons un appareil de luminothérapie, mais nous évitons que notre enfant de 5 ans le regarde. » Est-ce que c'est important ? Est-ce que la lumière, c'est une lumière de ces appareils peut abîmer les yeux ?
Pas du tout, du tout. Elle a été travaillée pour cela. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment. Les normes sont très bien faites.
En revanche, ce n'est pas parce qu'on va allumer la lumière à la maison... d'une ampoule LED que ça va nous apporter les bienfaits de la luminothérapie. Il faut des ampoules spéciales et il faut des lumières spéciales, Christian, on est d'accord.
C'est un outil spécifique qui est un outil santé.
D'accord.
C'est un outil santé. Parce que les photons que l'œil reçoit, c'est de la mécanique, c'est de la biomécanique. Ce sont des ondes physiques touchent la rétine et qui provoquent une variation d'énergie mécanique en énergie chimique et qui vous définissent ensuite les couleurs. Et en fonction des molécules dégradées, ça évoque les couleurs. C'est extrêmement complexe. Donc tout ça, c'est du physique. Et il y a une onde spécifique qu'on vous envoie pour pouvoir vous donner l'impression d'avoir une vision soleil. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui habitent dans le sud aujourd'hui sont des gens quand même bien lotis par rapport aux gens du Nord.
C'est clair.
Voilà.
Mais dès qu'on a un peu de soleil, même si on est dans le Nord de la France, on se couvre.
Et en période de confinement, vous voyez, sortez. En ce moment, il va faire beau, là, ce week-end. Sortez, s'il vous plaît, au moment du soleil.
Voilà, et on profite de 10 minutes.
Sans lunettes de soleil.
10 minutes.
Sortez une heure. Hein. Il y a une sortie de 3 heures qui est autorisée à partir de ce soir.
D'accord.
Allez-y, sortez. Ça va vous améliorer votre sommeil et ça va vraiment... vous tranquilliser, vous allez être plus serein.
Christian, c'était pas prévu, on va parler des ados et de...
Mais pour eux, c'est absolument nécessaire.
Alors, juste une chose, j'avais une petite question qui n'a rien à voir.
Pardon ?
On évoque beaucoup l'arrivée très prochaine des vaccins. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne nouvelle et que ça va sans doute accélérer la sortie de la crise qu'on est en train de vivre?
Alors je pense,
rapidement, hein, Christian, s'il vous plaît.
En 30 secondes, je pense à André Comte-Sponville, qui était très remonté contre ce confinement, car sur le plan économique, c'est un désastre. L'arrivée, François, des vaccins, c'est remarquable. C'est-à-dire que jamais la science a été aussi vite. Mais le vrai doute que j'ai, François, c'est ces gens qui résistent et qui sont en train de résister intellectuellement à l'idée de savoir s'ils vont faire un vaccin. Mmh. Bien évidemment qu'il faut le faire. Donc, plus tôt arrivera le vaccin, en espérant début janvier en France, plus tôt les nations seront immunisées d'une façon collective. Mmh. Et à partir de là, on pourra repartir sans problème. Et je dirais même que... Ne refusez pas les vaccins. Les vaccins ont sauvé des milliards de personnes en 40 ou 50 ans, avec très, 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 très peu de complications. Donc, si vous voulez, il faut vraiment penser vaccination. Et c'est une grande chance, François, qu'on ait les vaccins. Parce qu'on n'aurait pu les avoir que dans un an. Parce que c'était la proposition optimiste, c'était décembre 2020.
C'est vrai que ça arrive beaucoup plus vite que prévu.
C'est très bien, c'est remarquable.
Avec de nouvelles technologies de recherche aussi, hein, concernant ces vaccins.
Absolument.
Des nouvelles pistes.
On pourra faire d'ailleurs une émission spécifique sur le sujet. Effectivement.
Mais c'est passionnant tout ça. 8h20, il est temps de retrouver maintenant notre conseil du docteur.
Et quoi de neuf, docteur ?
RMC.
Mangez sain, mangez frais, mangez
les pommes !
L'ordonnance de Christian Recchia.
Alors, eh bien, Christian, vous voulez vous adresser aux ados,
oui,
aujourd'hui.
Un clin d'œil pour les parents, un clin d'œil pour les grands-parents. Quand on est adolescent, on a le corps d'un adulte et on a le cerveau et la maturité d'un enfant. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vivre l'adolescence en plein Covid. Je tiens à préciser que c'est déjà compliqué pour des adultes sereins et sages. Alors imaginez pour des adolescents. Et là, nous sommes en plus avec des adolescents qui sont devant des tablettes, des adolescents qui sont pas forcément à l'école, des adolescents qui boutonnent, qui sont boutonneux, des adolescents qui se posent des questions sur leur vie, sur leur activité. La période de l'adolescence...
S'ils ont des boutons en confinement, ça va.
La période de l'adolescence pour un humain, jusqu'à l'âge de 22-23 ans, est la période la plus compliqué qu'il soit. C'est une période que les politiques n'ont jamais réussi à résoudre. C'est une période que l'éducation nationale n'arrive pas à cerner. C'est une période que les parents n'arrivent pas, avec l'ado lui-même, n'arrivent pas à maîtriser. Et pourquoi ? Parce que finalement, nous constatons que c'est un sujet que les démocraties n'ont pas vraiment prise en charge. Et je dois dire qu'en ce moment, il y a un vrai grave problème. C'est que nous constatons que les ados sont 6 à 7 heures par jour devant des écrans. Non pas pour apprendre, mais pour jouer. Les ados...
Après, non, il y en a qui travaillent quand même, malgré tout. Hein,
je vais relativiser tout cela. Ce sont les chiffres. Donc, nous avons des ados aujourd'hui qui... d'une façon en valeur absolue, sont devant des écrans. Nous avons des ados qui doutent d'une façon naturelle, comme nous étions ados, nous doutions. Et nous avons des ados qui, là, et c'est le sujet... ont 30% de capacité métabolique en moins, c'est-à-dire qu'ils sont sédentaires et ils sont beaucoup plus sédentaires qu'il y a 25-30 ans, donc des ados qui ont la propension à faire des maladies vasculaires beaucoup plus précocement. Je m'explique et je termine sur cette introduction et je vais donner des solutions. La première, c'est de constater que si notre génération qui a 50 ans aujourd'hui commence à faire des infarctus à 45-50 ans, eh bien aujourd'hui les ados vont commencer à faire des maladies vasculaires à 30-35 ans. Et donc il faut vraiment dire aux ados qui nous écoutent, c'est très simple, avec ou sans confinement, toute cette crise va se terminer. À partir du mois de mars prochain, on sera encore libre. Eh bien, et vous serez toujours ado. Eh bien, concrètement, vous serez toujours parent. D'abord, remettez vos enfants au sport, je vous en supplie. Un chiffre. 2017, l'année où j'étais nommé ambassadeur à l'Union nationale du sport scolaire, avec Laurent Petrinka, 1 300 000 adhérents à l'UNSS. Cette année, en septembre, 570 000. C'est une catastrophe. Toutes les fédérations sportives ont vu s'effondrer. Oui. C'est tout à fait normal.
Ce chiffre, c'est normal.
Voilà.
Enfin,
donc,
je veux dire, on a vécu
si
une année
faire,
exceptionnelle.
Voilà. Et même si vous n'allez pas faire du sport, je dirais, avec une fédération, eh bien, c'est simple. Allez marcher. Tout simplement. Messieurs, mesdames les ados, allez marcher. Allez courir. Allez faire du ballon. Allez. Vous continuez peut-être à être sur les écrans, mais pour une heure d'écran, il faut 10 minutes de sortie. Donc, ce qui veut dire que dans une journée, une petite heure de sortie, en jouant au basket, en jouant au foot, en faisant du vélo, c'est très très bien. Surtout, allez à la lumière et sortez. Ça, c'est le message fort. Deuxième élément important. Quand vous êtes devant les écrans, c'est votre choix, chers ados.
ne grignotez pas, s'il vous plaît, parce que l'écran a la propension à provoquer au niveau neuronal une réaction, je dirais, une variation d'énergie mécanique en énergie chimique, c'est-à-dire une sécrétion d'insuline importante, et à partir de là...
Ça ouvre l'appétit,
ça ouvre l'appétit, et on grignote des choses malheureuses, comme des chips. Ça serait de la charcuterie, ça ne me dérangerait même pas, mais on grignote des choses...
Enfin, pour pas manger 3 saucissons par jour.
Oui, les chips, pour moi, sont des produits illicites. Donc, certains producteurs de chips vont m'en vouloir, mais bien oui, mon cher Alain.
Si Christian était le président, il y aurait un trafic illicite de chips.
Oui, il y aurait surtout
des chips sous le manteau.
Alors là, admettons,
ça serait horrible.
Que Dieu m'en préserve.
Hein. Un petit apéro,
pas de politique.
Attention, mais Christian n'est pas là.
Dites, entre vous et moi, un bon plat culturel.
Oui, bien sûr.
Un cassoulet de Cassenodari, une garbure.
En pleine visio, c'est facile.
Mais oui, pourquoi pas. Moi, je préfère des enfants qui mangent salé que qui mangent sucré. C'est beaucoup moins toxique.
Mais les chips, c'est salé.
Oui. Ah, vous êtes très
là,
fort.
Là, je vous ai coincé.
Vous êtes très fort. Et là, je pense que.
Je vous ai coincé.
Oui, là, vous êtes très, très fort.
Bon, ben voilà, on embrasse tous nos ados qui nous écoutent. Et c'est vrai que, bon, voilà, essayons de voir l'aspect positif.
L'aspect positif.
Tout ça, visiblement, 2021 va être une année.
On va remettre les pendules à l'heure.
On pourra aller mieux. 8h24, Christian, on revient dans un instant. Sortez la planche en bois, le saucisson. Vous avez un bon couteau aussi?
Oh, j'ai plusieurs couteaux. Voilà. D'ailleurs, je vous en ai offert un de Bormes les Mimosas. Rappelez-vous, FEMA.
Mais bien sûr, bien sûr. Je m'en souviens très bien.
Et pour le prochain grand rush, on va sortir le saucisson comme d'habitude.
Ouh là là. Écoutez, alors il va falloir que je les commande, hein, parce que franchement, on essaie d'avoir les meilleurs saucissons possibles. Bon, on va parler de charcuterie dans quelques instants. Vos questions, réactions, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est le week-end des experts, à tout de suite après la météo.
RMC, 8h-9h.
Bonjour à tous. Alors, vous avez vu, qu'est-ce qu'il y a là sur la table?
Saucisson.
Oui, je suis sûr que j'allais pas vous piéger avec ça. Si on en goûtait un petit morceau, non?
Votre forme.
J'aime beaucoup la charcuterie.
Cette charcuterie, elle a la couleur de saucisson à l'ail. C'est l'odeur du saucisson à l'ail. Mais ce n'est pas du saucisson à l'ail.
Christian Vecchia.
J'aime le saucisson. Ah là là, Christian, toutes ces chansons, toute cette culture de la charcuterie, ça donne envie,
oui,
hein,
effectivement,
vraiment.
Effectivement, le 2 juillet 2015, j'étais avec Jean-Pierre Coff et ce sujet a été évoqué à Évry dans un grand amphi où il y avait plusieurs centaines de personnes et je suis content d'avoir entendu Jean-Pierre Coff. Je lui rends hommage parce qu'il appréciait les grands produits.
Oui.
Et nous faisons cette émission aujourd'hui pour rendre hommage aux agriculteurs, aux transformateurs charcutiers qui aujourd'hui ont besoin de nous pour donner de la clarté scientifique. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Gérard Pascal en personne.
Alors Christian, juste une précision parce que évidemment sur Direct Studio, il y a pas mal de questions. On n'est pas là pour défendre le lobbying de la charcuterie.
Non, on est là pour expliquer scientifiquement des faits.
Voilà, vous êtes médecin.
Il y a des contre-vérités qui sont expliquées sur la charcuterie.
Bien sûr.
Et j'ai choisi le plus grand scientifique actuel qui a été président du comité scientifique de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments et qui aujourd'hui a organisé un travail scientifique exhaustif sur le sujet avec des médecins, avec des chercheurs. Et donc, il va nous dire ce qu'il en pense.
J'aimerais avoir votre avis, Christian. La charcuterie, est-ce qu'on peut en consommer et pourquoi a-t-elle une si mauvaise image?
Parce qu'il y a des personnes incompétentes qui se permettent de dire que 2 et 2, ça fait 2,5 et pas 4. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris que c'était compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris que les sels nitrités que l'on met dans la charcuterie étaient là pour bloquer la prolifération bactérienne. Parce que ces personnes n'ont pas compris que les dosages depuis 15 ans ont considérablement diminué et ont été parfaitement maîtrisés. Et si j'ai choisi Gérard Pascal aujourd'hui comme témoin scientifique de rang européen voire international, c'est parce qu'il a une rigueur et parce qu'il a eu, il est détaché de toute attache avec l'industrie au sens large et nous avons la chance de l'avoir avec nous.
Gérard Pascal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors voilà, un sujet important, hein, Christian. La charcuterie, on commence par quoi ? Parce que c'est vrai que...
Moi, j'ai une question à lui poser.
Alors, on y va.
Monsieur, merci d'être avec nous. Avez-vous une raison particulière de vous intéresser à l'évaluation du risque de l'utilisation des sels nitrités en charcuterie ? Et pourquoi ? Quel est votre chemin intellectuel ? Et pourquoi avez-vous... coordonner cette immense étude qui va remettre les pendules à l'heure et même des très grands auteurs scientifiques qui nous disent que la charcuterie est mauvaise vont pouvoir se remettre au rang et enfin dire la vérité. Donc on vous écoute et on aimerait vous entendre. Que pensez-vous de la charcuterie ?
Alors écoutez, pourquoi est-ce que je me suis intéressé depuis longtemps à cette question ? Quand j'ai été recruté comme chercheur à l'INRA, mon patron m'a confié comme sujet les additifs alimentaires, comment améliorer l'évaluation du risque de ces additifs. Il s'agissait essentiellement à l'époque d'antioxydants, mais j'ai tout de suite été dans le bain de l'expertise scientifique. Et dès les années 80, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et j'ai tout de suite entendu parler du problème des nitrates et des nitrites, du risque potentiel des nitrates et des nitrites. Ça fait donc près de 40 ans. Et puis, j'ai été nommé dans un comité scientifique européen en 86, et puis dans un comité international, le JECFA, qui est un comité mixte FAO-OMS, dès 93, et j'ai continué à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, à être confronté à des évaluations de ces nitrates et de ces nitrites. Donc j'allais dire, tout jeune chercheur, j'ai baigné dans la question des nitrates-nitrites. Et puis, à la fin de l'année dernière, j'ai pris connaissance d'opinions péremptoires qui ne semblaient pas supposer aucune discussion. Le risque était avéré. Ces additifs, et en particulier les nitrites, le sel nitrité dans les charcuteries, étaient cancérogènes. Alors, ça m'a surpris. Parce que j'avais conscience que la question était difficile, scientifiquement difficile, et je me suis dit, allons voir ce qu'il en est.
Et alors, quels sont
Professeur Pétel de l'Académie d'agriculture a bien voulu me faire une lettre de mission me demandant d'essayer d'y voir plus clair.
Gérard Pascal,
dans cette affaire.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont justement vos conclusions alors ? Danger ou pas du côté des nitrites ?
Alors. Les conclusions, c'est que le danger n'est pas avéré. Le danger des charcuteries, alors, il est nutritionnel. Tout le monde en convient. C'est salé. Il y a du gras. Et donc, il convient de consommer ces charcuteries avec raison.
Ben oui, comme tout.
Mais concernant donc le risque de cancer colorectal, puisque c'est la question que nous nous posions, ce risque n'est pas avéré. Le risque de la charcuterie paraît avéré et un peu plus élevé que celui de la consommation de la viande rouge. Quels sont les responsables de ce risque ? C'est là toute la question. Et donc notre conclusion, c'est parmi les responsables, nitrosamine et nitrosamide, donc des composés N-nitrosés, peut-être le fer nitrosylé, peut-être. Il y a quelques éléments expérimentaux. Mmh. Et puis, peut-être aussi, les composés néoformés résultant des traitements culinaires de ces charcuteries. Parce que à la chaleur, donc, il risque de se former des composés qui, eux, sont réputés et démontrés comme étant cancérogènes, qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des amines aromatiques.
Donc,
la question n'est pas réglée.
Ça veut dire que, et Christian, vous pouvez peut-être nous préciser tout ça, il ne faut pas cuire de la charcuterie ?
On ne cuit pas la charcuterie, on la consomme telle qu'elle, en entrée ou dans un plat, en quantité.
Par exemple, je me fais une tartine que je toaste avec une tranche
non,
de jambon.
On ne le fait pas.
Je ne mets pas de jambon au four.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais ce que je voulais
dire... La raclette, par exemple. C'est une période de raclette, on mange du fromage avec de la charcuterie. Il ne faut pas qu'on cuise donc la charcuterie, c'est ça ?
Exactement.
Le bacon, par exemple.
Moi, je fais référence au bacon, voilà. Et en particulier à tous les travaux épidémiologiques qui nous proviennent des pays anglo-saxons. Ça n'est pas culturellement notre habitude de consommer du bacon à chaque petit déjeuner frit moi j'allais dire brûlés, et là, qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes, ça
voilà.
C'est clair.
Et c'est une façon...
Oui, ouais, mais attendez, le bacon, donc il ne faut pas manger... Non, si, mais si, attendez, si, je termine sur le bacon, Christian, pour qu'on comprenne. Parce non,
mais
que là,
j'aurais voulu avoir le temps de répondre.
Oui, mais je n'ai pas bien compris sur le bacon, c'est important, il y a plein de gens qui mangent du bacon. Est-ce qu'il faut manger du bacon grillé ou pas?
Il faut savoir le cuisiner, il faut savoir prendre les petites quantités, il ne faut pas en manger en excès. Et encore une fois, la conclusion du professeur Gérard Pascal est claire, et je parle sous son égide, il est évident qu'aujourd'hui, la charcuterie ne présente pas de toxicologie colique dans la mesure où, dans le cas où la charcuterie est consommée d'une façon normale. Ça veut dire des quantités... dans le cadre de l'équilibre alimentaire, ça veut dire de la charcuterie accompagnée de légumes, accompagnée de fruits. Rappelez-vous, François, ce que je disais il y a 5 semaines. On mange de la viande, d'accord, mais on commence à penser légumes et on commence à penser fruits quand on structure un repas en famille. Et là, j'aimerais vous poser la question, Monsieur Gérard Pascal, quand le produit aujourd'hui a des sels nitrités, évidemment, il y a les polycycliques, il y a les polyamides, etc., qui peuvent arriver. Concrètement, que doit-on demander à nos citoyens? Quel type de charcuterie faut-il acheter? Et les charcuteries qui n'ont pas de sel nitrité, où il y a des charcutiers aujourd'hui qui revendiquent charcuterie sans sel nitrité, que peut-on dire là-dessus?
Alors, j'ai un premier élément de réponse que je n'aurais pas utilisé hier, matin en tout cas, mais que je vais vous proposer. Il y a eu, la semaine dernière, 26 cas de salmonellose identifiés dans la région de Lyon après injection de saucisses sèches et de mortadelle et un retrait par la répression des fraudes de ces produits dans différentes grandes surfaces.
Voilà.
Donc le risque hygiénique lié aux charcuteries existe. J'imagine que les producteurs de ces saucissons n'avaient pas utilisé de sel nitrité, mais je ferai mon enquête ensuite. Alors, que faut-il manger? Moi, personnellement, je pense que le risque botulique, alors ça c'est une opinion personnelle, mais qui a été reprise par notre groupe de travail, que le risque botulique, qui certes est faible, est tellement sérieux, il peut aller jusqu'à la mort, que face à un risque hypothétique lié à l'utilisation de sel nitrité dans les charcuteries, pour moi, il n'y a pas photo.
Hein. Oui, c'est le bénéfice-risque.
Je ne proposerai jamais à mes enfants, enfin, je n'aurais jamais proposé à mes enfants quand ils étaient petits de consommer des charcuteries sans sel nitrité. Je tuais mon cochon tous les ans pendant les vacances de février et je faisais mes saucissons, mes jambons en utilisant du sel nitrité, et qui plus est, comme j'étais chercheur impliqué dans l'évaluation de la sécurité sanitaire des antioxydants, et ben j'y rajoutais une petite pincée de BHT.
Alors, messieurs, juste, nous avons Serge au 32-16, il y a une question. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Serge, on vous écoute.
Déjà, j'achète rarement jamais de charcuterie en supermarché ou dans des grandes surfaces. Donc je suis un amateur éclairé, en allant en Corse régulièrement d'ailleurs.
Félicitations,
vous faites bien.
Oui. Peut-être que j'ai croisé M. Sorel sur une plage, mais je ne dirai pas où.
Et donc?
Donc, ma question... votre intervenant m'ébranle un peu dans mes informations. C'est vrai que le sel nitrité, les sels nitrités font peur. Et ma question, c'était comment reconnaître justement des charcuteries avec le moins d'additifs possible dans leur composition, que ce soit au niveau coloration, etc., etc. Parce qu'il y a bien un numéro, une étiquette sur chaque charcuterie produite, mais rarement la composition précise quand même.
Alors, la question, et je vais demander au professeur Gérard Pascal de m'accompagner dans cette réponse, je vais être de mon côté très bref. Aujourd'hui, cher monsieur, sachez que la consommation de sucre par enfant est de environ 40 à 50 morceaux de sucre par jour, sans manger un seul morceau de sucre blanc. C'est-à-dire que la consommation de sucre pur est tellement importante que pour l'intestin, c'est absolument effroyable. Je continue, François, pour dire que les charcuteries, là je réponds à la question, les charcuteries les plus valeureuses sont les charcuteries réalisées par des professionnels
qui ont diminué considérablement les colorants et les additifs inutiles, le cleanable. Et depuis maintenant 7 à 10 ans, les charcutiers comme Monsieur Muller que je cite, les charcutiers que je vais avoir tout à l'heure, Monsieur Sabatier, ont fait des travaux remarquables pour enlever les additifs inutiles. L'additif des sels nitrités E250, là, il est absolument utile pour laisser les personnes en toute sécurité quand ils mangent la charcuterie. Qu'en pensez-vous, Monsieur Gérard Pascal?
Écoutez, monsieur, je vais tout à fait dans votre sens. Il est tout à fait possible de préparer des charcuteries sans sel nitrité. J'en ai vu préparer des jambons en particulier, des jambons cuits, il y a une vingtaine d'années, dans une usine du nord de la région parisienne. Ces jambons étaient préparés dans des salles blanches, c'est-à-dire des salles pratiquement stériles, avec des gens portant des blouses, des masques, et qui permettaient de travailler de façon pratiquement stérile. Dans ces conditions-là, pas de difficulté, on peut parfaitement préparer des jambons sans sel nitrité. Dans d'autres conditions, c'est beaucoup plus difficile. Les risques microbiologiques existent, hein, je viens de vous en citer un exemple tout à fait récent. Heureusement, il ne s'agissait pas de botulisme, mais de salmonelle, mais enfin, bon, ce risque existe. Donc c'est une sécurité, et les efforts des industriels vont dans le sens de réduire la quantité d'additifs sans prendre de risques microbiologiques. Alors peut-être que nous arriverons encore à réduire un peu plus les teneurs. Elles ont déjà été réduites de l'ordre de 40 à 60% selon les produits. Donc moi, je ne vous conseille pas d'éviter à tout prix les produits sans nitrite, mais de regarder la qualité aussi, la qualité organoleptique, la qualité de la viande, et donc de choisir avec soin les charcuteries que vous allez acheter.
Merci beaucoup Gérard Pascal pour ces précisions.
Merci. On va continuer, professeur,
avec un autre témoin. Nous aurons un charcutier avec nous dans une minute au 32-16. Vous pouvez évidemment réagir 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
8h49, nous voilà de retour. C'est le week-end des experts, c'est la santé jusqu'à 9h avec Christian Recchia. Christian, on accueille un charcutier maintenant. Arnaud Sabatier est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors je ne sais pas si vous avez entendu notre petit débat sur la charcuterie. Alors présentez-vous, vous êtes charcutier où et qu'est-ce que vous fabriquez?
On ne se connaît pas, alors présentez-vous.
Voilà, donc Arnaud Sabatier, donc je représente la 5e génération d'une famille de charcutiers à Dijon. Donc mes arrière-grands-parents étaient artisans. Nous aujourd'hui, on a pris une taille un peu différente puisqu'on livre toute la France via la grande distribution. Voilà, on a plusieurs sites, plusieurs ateliers en Bourgogne. On fabrique du jambon blanc, du jambon persillé de Bourgogne, du jambon sec du Morvan et d'autres spécialités de la région.
Vous faites du saucisson par exemple aussi ou pas?
Saucisson, exactement. On fait aussi du saucisson sec.
D'accord.
Donc vous êtes un Morvandiou. Donc honneur à Vincent Pic et à tous ses amis. Dites-moi, la Bourgogne-Franche-Comté est une région où on mange beaucoup de charcuterie. Est-ce que vous avez le sentiment que durant ces 10 dernières années, vous avez eu une diminution de la consommation?
Oh non, finalement, ça s'est maintenu, peut-être même un peu développé, puisqu'en fait, il y a une grande variété de produits de charcuterie, avec des produits qui ont réussi à trouver une place au niveau national et à se développer au niveau national.
Par exemple?
Vous avez évoqué le jambon persillé de Bourgogne. C'était un produit complètement local. Aujourd'hui, on en vend partout en France. Je vais citer aussi le jambon sec du Morvan. Aujourd'hui, on dépasse largement les limites du Morvan et on en vend un peu partout.
D'accord. Ce jambon sec du Morvan, il est vendu... C'est un produit qui, par rapport à d'autres jambons secs, a une particularité?
Alors oui, puisqu'on a cherché vraiment à monter en gamme et on s'est intéressé à l'amont. C'est-à-dire qu'on a mis en place une filière d'élevage de porcs plein air.
D'accord.
Dans le Morvan.
D'accord.
Et avec ces porcs plein air, on fait en partie nos jambons secs du Morvan. Donc on a des jambons du Morvan qui proviennent de porcs plein air du Morvan ou bien de porcs de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est une région de production de porcs.
D'accord, d'accord.
Et alors, on parlait tout à l'heure de sanitrité. J'imagine que c'est un sujet que vous surveillez de près. Comment vous appréhendez ce problème? Vous surveillez véritablement les doses de tous ces composants que vous mettez dans votre viande?
Alors nous, on met du sel nitrité dans les produits un peu obligatoires. Vous l'avez cité tout à l'heure avec le jambon blanc. Le jambon blanc, si on veut lui conserver un bel aspect et une durée de vie suffisante pour l'expédier justement un peu partout en France, bah, il faut qu'il y en ait un petit peu. Donc aujourd'hui, on en met toujours un peu dans nos jambons blancs. Par contre, vous avez cité le jambon, le saucisson sec. Aujourd'hui, nous, on travaille avec Fabien Perron, qui est un meilleur ouvrier de France en charcuterie, et on lui produit un saucisson sans sel nitrité. Donc on fait des essais, parce qu'on fera des essais justement pour savoir quelle durée de vie on pourra tenir sur ce produit. Voilà, donc pour l'instant,
on vous demande d'être extrêmement vigilant sur ces essais pour la salubrité publique. Dites-moi,
Christian, juste pour
que faites-vous pour éviter les sel nitrités? Pardon, François.
Comment?
Que faites-vous pour éviter les sel nitrités? Quelle est votre technique?
Ah ben, justement, ça, je laisse faire Fabien Perron là-dessus. On remplace, il met d'autres ingrédients qui peuvent compenser un peu. Mais on fera bien sûr des analyses bactériologiques avant toute mise sur le marché. Vous avez raison, hein.
Christian,
on ne joue pas aux apprentis sorciers. Hein.
Bien sûr. On parle du sel nitrité, mais l'atout du sel nitrité, c'est d'éviter la prolifération de bactéries, de choses comme ça.
D'éviter à un certain dosage qui est vraiment à la molécule près, d'éviter la bascule et la prolifération de listeria, d'éviter la prolifération de bactéries qui sont très problématique pour la santé publique, d'éviter le botulisme, d'éviter tout cela. Et donc concrètement, je vais vous donner les chiffres, François, c'est qu'en 1920, il y avait plusieurs dizaines de milliers de morts liées à des intoxications alimentaires. Aujourd'hui en France, il y en a un ou deux par semaine chez des personnes qui sont immunodéprimées. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, l'industrie charcutière a fait des progrès considérables et nous avons les charcutiers les meilleurs du monde. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Américains ne nous arrivent pas à la cheville par rapport à cette performance. Je tiens à le préciser, c'est une fierté nationale. Mmh. Non seulement le produit est culturel, non seulement le produit est bon pour la santé à des quantités raisonnablement consommées, évidemment, et en intégrant l'équilibre alimentaire avec des légumes secs, avec des légumes, avec des fruits, avec une harmonie, sans trop de sucre dans l'alimentation, donc une alimentation structurée, la charcuterie a tout à fait sa place.
Non, on a un auditeur qui nous dit que dans le jambon de Parme, il n'y a pas de sel nitrité. C'est vrai ou pas, Christian?
Monsieur Sabatier, répondez-nous.
Alors, dans le jambon sec, en fait, on met du salpêtre. Donc, en fait, c'est une variante, mais il faut mettre quand même du sel pour conserver.
Voilà. C'est la base de la charcuterie, le sel, de toute façon.
C'est sans salpêtre. Sans salpêtre, il y aurait eu des millions de morts pendant le Moyen-Âge.
Eh oui.
C'était quand même la façon noble de conserver ces aliments, de nourrir les foyers familiaux. Et quand il y avait la culture de tuer le cochon et de faire avec le cochon le tout, c'était pour nourrir la famille. Et des personnalités comme M. Sabatier sont là pour tenir très haut le drapeau de la qualité. Et bon, il y a M. Daniel Muller, il y en a d'autres, on pourra en citer.
Arnaud Sabatier, merci d'avoir été avec nous. Christian, dernière question. À quelle fréquence puis-je manger de la charcuterie? Et combien de grammes?
Alors je vais vous donner
c'est
l'ensemble.
C'est compliqué les grammes.
Non,
mais bon.
C'est pas les questions de grammes. C'est sur 14 repas structurés par semaine. Eh bien, 21 repas avec. Allez, allons-y avec les petits déjeuners. Eh bien, il y a 800 grammes de poisson. Il y a évidemment la matrice volaille qui va être consommée autant que le poisson. Il y a la viande rouge et la charcuterie. C'est 2-3 fois par semaine à raison de 50-80 grammes. Ça fait partie des repas. Mais dans ces repas-là, mesdames et messieurs, je vous impose, je vous ordonne, je vous fais une ordonnance de légumes secs. Et un autre point, je vous demande de ne pas recuire cette charcuterie autant que faire se peut. Et surtout d'aller regarder la charcuterie pour avoir un minimum d'additifs inutiles en plus des sels nitrités. Si la charcuterie, c'est du porc, du sel et c'est tout. À partir de là, vous avez le must mondial.
D'accord. Mais c'est compliqué, par exemple, pour la quiche Lorraine, par exemple, pour les croque-monsieur, des choses comme
Il faut pas ces produits-là, ça fait partie de produits culturels qu'il faut, je dirais, manger le moins souvent. Sinon, c'est exactement ce que je vous ai dit.
Vous voyez, j'ai appris un truc. Je ne savais pas, typiquement. Merci beaucoup, Christian.
Merci, M. Sabatier. Bravo pour la qualité que vous réalisez.
Christian, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Merci infiniment.
Et Christian Rakia, vous le savez, 8h-9h sur RMC. On va retrouver la météo, les infos. Et on va enchaîner avec la vie numérique et Raphaël Grabli qui me rejoint. On va passer carrément autre chose. On va parler de jeux vidéo. De nouvelles consoles sortent. Laquelle choisir? Et surtout, quels sont les nouveaux jeux qui arrivent en cette fin d'année?